Notre invité à présent sur Liberté FM est au téléphone et je l'en remercie. Alexandre Lefebvre, bonjour.
Merci, bonjour Pascal.
Merci de nous consacrer quelques instants. Vous êtes enseignant-chercheur à l'Université de Bordeaux et ce samedi 8 novembre, vous donnerez une conférence à la salle des fêtes de la Tour Blanche Cercle sur le site de la PESI. Alors c'est un site pas très connu, peut-être volontairement d'ailleurs pour éviter d'avoir trop de curieux. Il est situé tout de même, ça on peut le dire, géographiquement à Lille. C'est bien ça?
C'est exactement ça, oui. Oui, c'est un site qui est peu connu, sur lequel nous travaillons depuis dans le cadre d'une équipe, d'un projet de recherche collectif sur lequel nous travaillons depuis 2019 et qui est, il est situé donc dans la moyenne vallée de la Drône et qui avait déjà été fouillé dans les années 30 par un archéologue plus ou moins local qui s'appelle Paul-Émile Jude. Et voilà, et donc c'est un site qui est assez peu connu, principalement parce que les travaux de Jude ont été peu publiés, c'est-à-dire qu'il a peu divulgué ses travaux. Il n'est pas resté très longtemps, il faut dire, également sur le site. Et puis nous sommes en train ça fait 4-5 ans qu'on est sur le site, et on est en train de rédiger les premiers articles sur les travaux qu'on mène à la PESI. Donc effectivement, c'est un site qui a été peu publié. Et puis, c'est vrai qu'on a tendance, dans un premier temps, à cacher un peu au grand public sa localisation exacte, dans la mesure où on a envie qu'il y ait des visiteurs qui puissent venir fouiller le site en notre absence.
Pour quelles raisons, en 2019, vous avez repris avec toute une équipe donc ces fouilles qui avaient précédemment été faites dans les années 30 ?
Alors en fait, on cherchait un site avec des collègues, avec plusieurs collègues, on cherchait un site à fouiller qui correspond à un site préhistorique, hein, qui se reportait à une période bien précise de la préhistoire, c'est-à-dire la transition entre les derniers chasseurs-cueilleurs glaciaires qui vivaient pendant une période glaciaire et les premiers chasseurs-cueilleurs post-glaciaires qui vivaient pendant la période dans laquelle on vit actuellement, l'Holocène. Donc c'était une période qui nous intéressait particulièrement. Et les premières fouilles qui ont été menées sur le site de la PESI dans les années 30 avaient mis en évidence ce type d'occupation-là. Donc on était revenu initialement sur le site pour essayer de retrouver tout d'abord le site fouillé dans les années 30. On n'était pas sûr de sa localisation exacte parce qu'entre-temps, vous imaginez bien que la végétation avait repris le dessus et qu'il fallait déjà retrouver le site et puis vérifier si des niveaux d'occupation, si du matériel archéologique était encore présent dans le site, exploitable pour nous. Donc c'est pour ça qu'on est revenu donc en 2019 et qu'on a nettoyé déjà la falaise de la PESI et qu'on a ensuite recherché ce site qu'on a retrouvé assez facilement d'ailleurs. On avait quand même quelques photos, on avait quelques informations qui nous permettaient de le localiser. Et on a entrepris de refouiller le site, le site fouillé par Paul-Émile Jude, ce qui nous a amené à nous rendre compte que il y avait plus de données exploitables dans ce site-là, que les fouilles des années 30 avaient entièrement vidé le site, qui s'était lui-même, avec le temps, re-rempli de sédiments. Donc, les résultats, dans un premier temps, étaient assez négatifs pour nous, puisque, en fait, on s'est rendu compte qu'on retombait sur un site ancien, inexploitable pour nous. Mais comme on était présent sur cette falaise et dans le vallon de la Donzelle, on a décidé de tester plusieurs endroits de cette corniche calcaire pour essayer de vérifier s'il y avait d'autres sites potentiellement présents. Et on a trouvé un autre site intéressant que nous avons appelé, que nous appelons actuellement PESI 4, sur lequel nous travaillons. C'est-à-dire que on ne travaille plus sur le site fouillé dans les années 30 par Jude. On travaille sur un autre site qui n'avait jamais été fouillé jusque-là et qui se situe à 80 mètres environ du site fouillé dans les années 30.
Et aujourd'hui, donc, on peut attester que c'était un site qui a été habité pendant plusieurs décennies.
Alors, vous parlez du site de fouiller, le premier site.
Le premier site et le second, celui sur lequel vous êtes aujourd'hui.
Alors en fait, ces deux sites, alors ce qui est intéressant, c'est que ces deux sites, ils se succèdent chronologiquement. c'est-à-dire qu'ils n'attestent pas d'occupation de la même période exactement, mais ils sont à quelques millénaires près, ils se suivent. C'est-à-dire que quand on regarde le matériel qu'on retrouve sur les deux sites, on a une succession d'occupations sur plusieurs milliers d'années. Alors voilà, on se situe entre, allez, on va dire, entre 5000 ans. Ça documente 5000 ans d'occupation de la fin de la préhistoire. Qui sont comme ça répartis sur les deux sites qui n'ont pas été donc occupés au même moment.
Est-ce que ces recherches qui ont été effectuées, soit par Paul-Émile Jude, soit par vous-même et votre équipe, Alexandre Lefebvre, ont apporté des informations complémentaires sur ce qu'était peut-être le quotidien ou la vie de ces populations qui étaient donc sur cette corniche de la Paisie ?
Oui. Alors nous l'espérons, on espère qu'on va quand même apporter quelques informations supplémentaires. Bah, tout d'abord, par rapport aux travaux de Paul-Émile Jude, on a pu compléter un peu les observations que lui, il avait pu faire, notamment en mettant en œuvre des techniques auxquelles il n'avait pas accès dans les années 30, bien évidemment, notamment des formes de datation. On a pu identifier que le site avait été occupé sur une période un peu plus longue que ce que lui avait mis en évidence. Alors, quand même, le gros problème de ce site-là, c'est que le matériel aujourd'hui est disséminé dans différents musées, différentes collections publiques et pour certaines privées, donc on n'a pas accès à tout le matériel que Jude a mis au jour. Donc, on a pu compléter ces observations. Et puis, aujourd'hui, le second site qu'on fouille, Paisy 4, lui, est beaucoup plus intéressant pour nous puisque, bah, effectivement, on a tout le matériel à notre disposition. Et en plus, il vient documenter une période assez précise de la préhistoire. C'est une phase précise de l'époque qu'on appelle le Magdalénien, pendant laquelle les groupes humains, donc c'était essentiel, on a pu documenter effectivement leur vie quotidienne, on a participé à documenter leur vie quotidienne, et c'est surtout que à cette époque-là, jusque-là, on va dire, les recherches qui avaient été menées sur cette période de la préhistoire en Dordogne n'avaient pas mis en évidence de sites précisément datés de cette période. Ah oui. C'est ce que nous on appelle, alors c'est un peu technique, mais nous on appelle ça le Magdalénien moyen récent, c'est-à-dire que c'est une sous-division du Magdalénien, mais en gros c'est une période de temps qui dure à peu près 1500 à 2000 années, entre 18 000 et 16 000 années avant le présent. Et c'est une période qui n'avait pas été documentée dans le nord du bassin aquitain, on va dire en gros en Dordogne et un peu dans les marges de la Dordogne. Alors ça veut pas dire que ces groupes humains n'étaient pas là à cette époque-là, c'est surtout qu'on n'avait pas réussi, c'était un biais de la recherche. Il n'y avait pas de fouilles récentes qui avaient été menées sur ce genre sur cette période-là précisément, et qu'on manquait notamment de datation précise permettant de nous assurer que ces groupes humains étaient présents à cette époque-là. Et l'argument qui était derrière cela, c'était que c'est une époque particulièrement froide de la fin de ce qu'on appelle le paléolithique récent, une période où il fait très froid. On a un pergélisol qui est pas vraiment en Dordogne, c'est un sol qui est gelé quasiment toute l'année, qui se rapproche de la Dordogne, donc il fait très froid. On a des espèces animales de glaciaires hein, qui sont exploitées par les groupes humains, du renne, du cheval, du bison. Et on pensait que jusqu'à la fouille que nous avons menée, que ces groupes humains étaient redescendus un peu plus vers le sud du bassin aquitain à la faveur pour retrouver des conditions climatiques un peu meilleures. Donc voilà, quand on est arrivé sur le site, c'était la théorie qui était en vigueur, et nous, on est en train de se rendre compte qu'en fait, ces groupes humains, ils étaient bien là, sauf qu'on les avait pas identifiés jusqu'à présent. Donc le site de la Paisie, va être pour l'instant le premier site bien daté de cette période sur ce territoire.
Donc il y a eu des découvertes, des avancées quand même importantes pour essayer de mieux comprendre quel était le quotidien de ces populations qui se sont installées sur le bord de ce que nous appelons aujourd'hui la Drône.
C'est ça. Alors, ils étaient plutôt sur le bord de la Donzelle, qui est un petit affluent de la Drôme. Ils étaient à proximité de la Drôme, exactement. Et oui, effectivement, on a toute une panoplie d'objets qui vont documenter les modes de vie de ces groupes humains. Alors, au début, on a retrouvé surtout du matériel en silex, bon, comme souvent pendant la préhistoire. Hein. Et plus on a fouillé, et plus on a complété la gamme des activités du quotidien de ces groupes humains. Au début, on pensait qu'on était vraiment face à un atelier de taille de silex, spécialisé dans la taille du silex, parce qu'on en a vraiment retrouvé beaucoup. Et aujourd'hui, on se rend compte qu'en fait, ils ont exploité différentes espèces animales, comme je disais, Le raie, on retrouve des restes de grandes faunes, hein, froides, du renne, du cheval, du bison. On sait également qu'ils fabriquaient des armes à partir des ossements et à partir des boîtes cervidées. On a retrouvé toute une panoplie d'armes de chasse, notamment. On sait qu'ils faisaient quelques éléments de parure. On sait également qu'on a retrouvé des traces d'art mobilier aussi, c'est-à-dire de gravures, notamment sur os, qui représentent des figures animales, ce qui nous laisse penser en fait qu'on est probablement sur un site d'habitat un peu plus conséquent et qui a dû durer un peu plus longtemps dans le temps que ce qu'on avait imaginé jusque-là.
Est-ce que ce site de la Paisie, donc dans sa globalité, hein, sera un jour accessible au public pour découvrir donc ce lieu avec des explications comme vous en donnerez sûrement lors de cette conférence ce samedi 8 novembre à la salle des fêtes de la Tour Blanche Cercle ?
C'est difficile à dire pour l'instant parce que c'est un site qui se situe sur une propriété privée. Donc les visites pour l'instant ne sont pas autorisées. Mais c'est pas impossible qu'à terme, une fois, peut-être quand on aura terminé la fouille, peut-être qu'on pourra mettre en place ce genre de visite. Pour l'instant, c'est pas d'actualité, mais c'est pas impossible dans un futur proche, voire moyen.
Est-ce qu'il y a d'autres sites à proximité, puisque là vous évoquez donc la Paisie 4, hein, qui est la suite de ce qui avait été découvert sur le premier site de la Paisie effouillé par Paul-Émile Jude. Est-ce que donc ça peut se prolonger toujours sur cette corniche ?
Alors, oui, ça pourrait se prolonger sur cette corniche, parce que la corniche calcaire de la Paisie est une corniche qui mesure à peu près une centaine de mètres de longueur dans sa partie visible. C'est-à-dire qu'il y a une partie qui est enfouie encore par les sédiments, donc elle devait faire à peu près 300 mètres de longueur, et qui a été dans laquelle plusieurs cavités ont été creusées. Alors ce sont des petites grottes, hein, c'est des réseaux karstiques assez peu développés, des petites grottes, et aujourd'hui, on sait qu'il y a encore probablement des sites à investiguer sur la corniche.
Est-ce que dans ces petites grottes, donc, qui étaient probablement des refuges ou des lieux de vie, on retrouve des gravures ou des peintures comme sur d'autres grottes célèbres de Dordogne ?
Alors oui, oui et non, j'ai envie de dire, c'est-à-dire que il n'y a pas vraiment d'art pariétal préhistorique certifié. Par contre, il y a notamment dans la grotte que nous fouillons, il y a des faux qui ont été réalisés probablement au début du XXe siècle. C'est-à-dire qu'on a retrouvé notamment des gravures qui ont un temps été pensées comme étant possiblement paléolithiques, enfin préhistoriques, et puis qui ont été expertisées par des professionnels et qui ont permis de vérifier que c'était des faux. Et on pense que on ne sait pas exactement qui a réalisé ces faux, mais probablement ce sont des gravures qui auraient été faites au début du XXe, au moment des fouilles de Jude, au moment des fouilles de Jude. Alors c'est pas Jude hein, qui les a faites, hein, mais au moment des fouilles de Jude. Après on a d'autres gravures qui pourraient laisser penser des périodes un peu plus récentes, pas de la préhistoire, de l'histoire. Mais ça, c'est pas encore certain.
Donc il y a encore des journées entières et des périodes de recherche et de fouilles. Merci beaucoup. Alors pour celles et ceux qui souhaitent en savoir davantage, parce que là, c'est vraiment survoler l'histoire et les découvertes de ce site de la Paisie, on va conseiller donc à tout le monde de vous rejoindre ce 8 novembre où vous donnerez donc à partir de 20h30 à la salle des fêtes de la Tour Blanche Cercle cette conférence sur les sites de la Paisie, une histoire en construction, c'est le titre donc de cette conférence. Merci beaucoup Alexandre Lefebvre pour ces quelques minutes.
Je vous remercie.